Monsieur le pasteur Rogemel, nous avons évoqué précédemment la crise que traversent les églises chrétiennes, aussi bien protestantes que catholiques, et vous-même vous êtes demandé à un moment donné s'il n'y aurait pas lieu de mettre fin à la parenthèse qui avait donné origine à ces églises réformées, ces églises protestantes de langue française. Je voudrais presque vous demander, n'est-ce pas maintenant, est-ce que, justement, il n'y a pas lieu de fermer, puisque nous semblons vivre des choses similaires, puisque des rapprochements importants sont faits entre nos églises, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'en finir avec ces divisions?
Je comprends votre question, et si je comprends bien aussi votre souhait. Et ce souhait, je le partage pour ma part. Je ne suis pas sûr du tout que nos églises, toutes nos églises sous leur forme institutionnelle, soient destinées à durer jusqu'à la fin des temps. Et il nous faut hâter la manifestation de l'Église universelle. Alors toute la question est de savoir si en ce qui concerne le protestantisme, le moment est venu de fermer la parenthèse. Tout à l'heure, nous évoquions un certain nombre de signes au travers desquels nous comprenons que l'Église catholique a répondu à un certain nombre de requêtes de la réforme. Est-ce qu'il ne subsiste plus de problème? Certainement si, n'est-ce pas? Certainement si. Et des problèmes qui sont des problèmes importants. Et en particulier, voyez-vous, il y a ce problème de l'autorité. Je sais bien qu'à l'heure actuelle, l'autorité dans l'Église catholique n'a plus la même raideur. Ni le même prestige. Elle est obéie ou elle n'est pas obéie, n'est-ce pas? Et les sanctions sont devenues, la plupart du temps, inefficaces. Mais dans son principe, l'autorité du souverain pontife, l'autorité des évêques reste constitutive de l'Église. La réforme, elle, a fait ce pari difficile, n'est-ce pas, que les fidèles, dans la docilité à l'Écriture et sous la conduite du Saint-Esprit, sont à même de vivre une foi chrétienne authentique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont aboli toute autorité dans leur Église. Il y a des autorités ecclésiastiques, mais leur rôle n'est pas le même que dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, l'évêque et non seulement le garant, mais l'expression de la foi authentique. Et c'est sur ce point, voyez-vous, qu'il subsiste entre la pensée catholique et la pensée protestante une différence qui me paraît fondamentale. D'un côté, une autorité qui, par elle-même, percée, garantit et exprime la foi véritable de l'Église, et de l'autre, une communauté qui, humblement, dans la soumission à l'Écriture sainte et dans la foi que l'appui, l'illumination du Saint-Esprit lui sera accordée, cherche à exprimer cette même foi. Il y a là deux styles de vie, n'est-ce pas, deux façons de concevoir l'Église, qui continue, malgré tous les rapprochements que nous avons dit tout à l'heure, à se heurter. Et puis il y a un deuxième point qui me paraît important aussi, et qui apparaît très clairement à propos du problème de l'Eucharistie. Je crois que les anciens problèmes sont aujourd'hui des problèmes liquidés. Présence du Christ dans l'Eucharistie, ça, je crois que ça ne fait pas de difficulté, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté et de l'autre aussi, nous savons que cette présence du Christ est un mystère et que par conséquent, toutes les doctrines théologiques qui ont été inventées au cours des siècles pour essayer de rendre compte de ce mystère sont des approximations culturellement datées. Des approximations entreprises avec les moyens culturels, c'est-à-dire philosophiques d'une certaine époque. Vous voyez, les doctrines de
transubstantiation,
consubstantiation, etc., etc. Doctrines qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus comprendre, tout simplement parce qu'elles font appel à un appareil conceptuel qui n'est plus le nôtre. Les notions de substance, d'attributs, d'attributs principaux, etc., etc. Tout ça, nous ne le comprenons plus. Et finalement, c'est secondaire. Nous sommes tous renvoyés au mystère de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Les modalités de cette présence ne doivent pas nous inquiéter parce que nous ne pouvons de toute façon pas en rendre compte. C'est lié à l'acte de Dieu, à l'acte de la grâce divine, et on ne peut pas rendre compte de la grâce divine.
Alors, où reste la difficulté ?
La difficulté apparaît non pas sur le contenu de l'Eucharistie, non pas sur le sens de l'Eucharistie, mais sur sa validité, ce qui est un concept catholique d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous entendez par validité ?
Eh bien, l'Église catholique enseigne qu'on ne peut recevoir valablement, validement, l'Eucharistie que de la main d'un prêtre ordonné et par son ordination insérée au travers des évêques dans la succession apostolique. C'est donc une condition en quelque sorte juridique de validité.
Alors que par exemple l'Église catholique reconnaît que le baptême peut être administré par un laïc.
C'est ça.
Donc
ça
marque la différence.
C'est ça. Il y a une réglementation particulière pour l'Eucharistie. Bien sûr, le baptême doit normalement être administré par un prêtre, mais en certaines circonstances, il peut l'être par la sage-femme, par n'importe qui. Alors, ce qui, à nous, protestants, nous paraît inconcevable, c'est que, étant en plein accord, je dois le dire, à la fois sur le contenu et sur le sens de l'Eucharistie, nous soyons empêchés de communier ensemble par une question de validité. Tout simplement parce que les catholiques nous disent « Ah, votre pasteur, qui normalement préside la Sainte Cène, encore qu'il ne soit pas du tout exclu qu'un laïc puisse la présider, n'est-ce pas ? Votre Sainte Cène, parce qu'elle est présidée par un pasteur, n'est pas valide, n'est-ce pas ? Alors que nous croyons la même chose et que nous pensons que ce qui est décisif, c'est le contenu et le sens.
Mais pourtant, dans l'Église protestante, seul le pasteur peut présider l'Eucharistie, ou n'importe quel fidèle peut le faire.
En principe, donc, c'est toujours le pasteur. Mais ça peut être un laïc dans la mesure où il y est autorisé. Et pour nous, protestants, c'est uniquement une question d'ordre et de discipline. Ce n'est pas plus, n'est-ce pas ? Il faut que dans l'Église, les choses se fassent avec ordre, n'est-ce pas ? Il faut que chacun ne s'institue pas de sa propre autorité. Et par conséquent, comme il y a des autorités dans l'Église pour assurer cet ordre, eh bien, les autorités ont prescrit que ce soit le pasteur ou un fidèle à qui une délégation pastorale pour cette circonstance aura été accordée.
Mais si je vous comprends bien, quand vous parlez d'ordre, vous ne parlez pas simplement, je dirais, de discipline, de police. Vous parlez aussi d'unité de l'Église, n'est-ce pas ? D'unité de la communauté.
L'unité de la communauté, mais enfin, l'ordre n'est pas tellement constitutif de l'unité de la communauté.
Non, mais il faut qu'il y ait ordre pour qu'il y ait unité. Et l'unité suppose aussi que les choses se fassent
en
ordre.
Oui, mais souvent l'ordre paralyse l'unité aussi, n'est-ce pas ? Il y a les deux choses. Alors, voyez-vous, c'est là un des points sur lesquels nous nous séparons encore très, très, très fortement. Et c'est ce qui fait que l'impossibilité que prendre la communion ensemble constitue manifestement pour beaucoup de fidèles, tant catholiques que protestants, une souffrance. N'est-ce pas ? Derrière cette question de la validité se profile une autre question qui est celle du pouvoir ecclésiastique. Il y a une certaine notion d'un pouvoir qui est détenu par le prêtre en tant que prêtre parce qu'il est ordonné, et quelle que soit sa foi ou son absence de foi, n'est-ce pas ? Après tout, ça peut arriver qu'un prêtre perde la foi, il n'en reste pas moins prêtre, n'est-ce pas ? Et il conserve ce pouvoir. Alors, cette idée d'un pouvoir propre à la prêtrise est totalement étrangère alors au protestantisme. Alors, sur ces points-là, vous voyez, qui sont des points quand même extrêmement profonds...
Et graves.
Et graves, il y a persistance, sans doute, de la division... Et c'est pour cela qu'il faut, me semble-t-il, qu'à l'heure actuelle, la parenthèse ne soit pas fermée. Et il faut que le dialogue puisse continuer. Voyez-vous, tout récemment, enfin, il y a quelques mois, à Paris a eu lieu, ça se produit tous les 5 ans, l'Assemblée générale du protestantisme français. Et à cette Assemblée générale, on avait invité un certain nombre de personnalités extérieures au protestantisme pour qu'elles disent aux protestants ce qu'on attend d'eux. Et parmi les personnalités invitées, il y avait Mgr Le Bourgeois qui, au sein de la conférence épiscopale, est chargé en particulier des relations œcuméniques. Alors lui nous a dit avec une sincérité, une fraternité très considérable, comment il voyait le protestantisme et ce qu'il en attendait. Et au travers de... Il nous a posé des questions. Il nous a dit, vous savez, nous sommes dans l'incertitude sur ce que vous, par exemple, protestants, vous pensez de la nature de l'Église. Dites-le-nous. Pas immédiatement, bien entendu, mais réfléchissez-y. Eh bien, au travers de cet exemple, je vous dirai, nous avons le sentiment de la nécessité, à l'heure actuelle, pour les deux parties d'ailleurs, d'un dialogue qui continue et s'approfondisse. Et c'est pour cela que, me semble qu'il faut dire, ne fermons pas la parenthèse, c'est encore trop tôt.
Je pense, monsieur Pasteur, que nous comprendrions mieux tout ce que vous venez de nous dire si vous nous expliquiez un peu plus ce que ça signifie que d'être un pasteur dans l'Église protestante.
Volontiers, puisqu'après tout, ma tâche en tant que professeur dans une faculté de théologie, c'est de contribuer, en tout cas du point de vue scientifique, à la formation intellectuelle des pasteurs.
Je pense que vous n'avez pas vous-même de paroisse, vous n'êtes pas responsable de
non,
paroisse.
Non, je l'ai été, très peu de temps d'ailleurs, mais je suis uniquement professeur à l'heure actuelle. Oui, qu'est-ce qu'un pasteur ? À l'heure actuelle, beaucoup... d'étudiants en théologie se posent la question. Je remarquerai d'ailleurs qu'il n'y a pas de, du moins en France, pas de crise de recrutement pastoral. Nous avons un nombre d'étudiants qui va au contraire en croissant.
D'étudiants de la faculté qui entendent devenir pasteurs, et pas simplement des gens qui viennent faire des études de théologie pour s'initier à cette discipline.
Il est bien clair que tous ne deviendront pas pasteurs. La grande majorité, quand même, deviendra pasteur. Et nous sommes sortis de cette période qui se situe autour des années 67-69, où un grand nombre faisait de la théologie pour la théologie, comme on fait de l'art pour l'art, et ne se destinait pas au ministère pastoral parce qu'ils avaient des réserves à l'égard, c'est assez curieux de la part de protestants, de l'institution ecclésiastique, n'est-ce pas ? Mais nous sommes, je crois, sortis de cette période. Oh, bien entendu, ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'étudiants, en cours de route, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour être pasteurs et qu'ils s'orientent autrement. C'est tout à fait normal. La majorité de nos étudiants, à l'heure actuelle, se destinent au ministère pastoral. Et si cela continue comme cela, eh bien, on peut dire que dans un pays comme la France, qui a besoin de beaucoup de pasteurs, parce que le protestantisme est très dispersé en France, n'est-ce pas ? Et par conséquent, il faut un grand nombre de pasteurs. Si ça continue comme cela, eh bien, je crois que Nous n'avons pas d'inquiétude dans l'immédiate à avoir.
Donc pas de crise de recrutement.
Pas de crise de recrutement, non. C'est assez paradoxal, alors qu'il y a une crise de l'Église, une crise de la piété, de la pratique. Il n'y a pas, à proprement parler, de crise de recrutement pastoral. Au contraire, la courbe monte plutôt qu'elle ne descend.
Alors, qu'est-ce qu'être pasteur ?
Oui, qu'est-ce qu'être pasteur ? Le pasteur est traditionnellement défini comme l'homme qui a pour charge d'annoncer et d'expliquer la parole de Dieu. C'est ça la charge pastorale essentielle. Non pas l'annoncer et l'expliquer à tout venant, mais à une communauté. Il y a un lien entre pasteur et communauté, c'est généralement à l'intérieur d'une communauté, quoique évidemment le pasteur puisse avoir une partie de son ministère qui s'exerce en dehors de sa communauté, vers l'extérieur, et c'est l'expérience de beaucoup de pasteurs à l'heure actuelle qu'ils voient venir à eux des gens de l'extérieur, et ils sont aussi à leur disposition. Mais ce qui est important dans ce que nous disons, c'est le fait que la charge du pasteur, c'est l'annonce et l'explication la parole de Dieu. Ce qui distingue donc le pasteur du fidèle, du laïc, si vous voulez, c'est que il a dans ce domaine, de par sa formation universitaire, une compétence plus poussée que le laïc. Je crois qu'on peut dire que dans le protestantisme, la distinction essentielle entre le fidèle et le pasteur, c'est que le pasteur est un technicien, si vous voulez, qu'il a une compétence que, en règle générale, le fidèle n'a pas, mais qu'il peut acquérir, et à l'heure actuelle, nous voyons beaucoup de laïcs suivre des cours dans des facultés de théologie, justement, pour dépasser le stade qu'ils ont acquis à l'époque de leur jeunesse ou de leur adolescence.
Si ma mémoire est fidèle, Monsieur Pasteur Mel, dans votre livre « Sociologie du protestantisme », vous parlez d'une crise de la parole, n'est-ce pas, d'une crise de la fonction de la parole. Et vous dites qu'actuellement, oui. Alors, est-ce que cette crise-là, les pasteurs la ressentent ?
Ah, ils la ressentent très certainement, n'est-ce pas ? Parce que nous vivons dans une civilisation qui est une civilisation non pas de la parole, non plus de la parole, mais de l'acte technique efficace, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que c'est que cet individu dans notre société qui, alors que tous les hommes travaillent, font un travail efficace,
oui,
produisent, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui agit uniquement dans toute l'action et parole, n'est-ce pas ? Alors, je sais bien qu'il n'est pas le seul. Il y a l'avocat, il y a l'homme politique.
Le professeur.
Le professeur. Oui, mais le professeur, vous comprenez, il endoctrine, il fait entrer un savoir, et puis à la fin, il y a un examen, et puis on voit si c'est bien entré, et puis on livre sur le marché un produit, car après tout, c'est un produit qu'on livre sur le marché. Et chez le pasteur, c'est pas ça. Alors, le pasteur se sent, dans ce monde, dans notre civilisation, un peu un être à part, un peu un être isolé.
Parce qu'il n'y a pas d'efficacité apparente.
Il n'y a pas d'efficacité apparente. Et même, je pense que, en bonne doctrine biblique, il ne faut pas tellement se préoccuper des résultats. Il ne faut pas essayer de voir les résultats. Il y a tellement de paroles de Jésus qui nous disent, attention, ça ce sera pour le jour de la moisson, n'est-ce pas ? Le jour de la moisson n'est pas venu. Alors, il est très humain et très normal de vouloir voir les fruits de son travail. Le pasteur les voit, bien sûr, il voit des gens qui semble-t-il, croissent dans la foi, qui acquièrent une stature chrétienne plus marquée. Il ne peut pas beaucoup, beaucoup s'en réjouir, parce que tout cela, après tout, ça peut être balayé demain, n'est-ce pas ? Et on ne voit pas les résultats et on n'agit pas d'une façon productive comme les autres hommes. Alors, ça ne date pas simplement d'aujourd'hui, mais dans le passé, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'est que la société dans son ensemble avait l'idée qu'il existe un sacré et qu'il y a des hommes du sacré, le prêtre, le pasteur, n'est-ce pas ? Et c'était une évidence pour tout le monde. Or, vous le savez bien, cette évidence n'existe plus. Alors, le pasteur se trouve là, dans une situation qui est psychologiquement et moralement sans doute assez difficile. Et encore plus difficile du fait du développement des sciences humaines, parce que les sciences humaines ont amené la formation d'un certain nombre d'hommes qui donnent des conseils, n'est-ce pas?
Oui, les psychologues.
Le psychologue, le psychanalyste, oui. Le psychiatre.
Les orienteurs.
Les orienteurs, animateurs, etc. Et alors, je dirais que dans une certaine mesure, ce sont des gens qui font concurrence aux pasteurs.
Qui ont une certaine fonction pastorale.
Qui ont une certaine fonction pastorale, mais qui ont alors le prestige d'une science profane.
Et de technique.
Et de technique. Et par suite, il arrive, voyez-vous, que les gens aillent plus volontiers vers ce type de spécialiste que vers le pasteur. Et beaucoup de pasteurs disent, c'est curieux, je constate que mes paroissiens s'ouvrent beaucoup plus à leur médecin qu'à moi-même.
Ou à la soifeur, dans certains cas.
Ah oui, 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 bien sûr. Alors, il y a une certaine hésitation sur l'identité de la fonction pastorale. Et alors, ça conduit un certain nombre de jeunes pasteurs ou d'étudiants en théologie à se poser la question suivante. Est-ce que vraiment le ministère pastoral peut être une profession, un métier? Est-ce qu'il ne nous suffirait pas d'être pasteur samedi après-midi et le dimanche, et puis d'avoir à côté de ça un métier?
Comme violondingue, quoi.
C'est ça. Alors, ça peut se justifier dans certaines régions. Par exemple, je pense à des régions de grande dissémination protestante, où effectivement, le pasteur n'a peut-être pas de quoi remplir son temps toute la semaine. Mais je crois que dès qu'il y a une communauté un petit peu importante, il y a affaire, il y a un travail professionnel, un métier, n'est-ce pas, à exercer. Je n'hésite pas devant le terme de métier. Mais ça exige, bien entendu, que les futurs pasteurs soient formés aussi à un certain nombre de sciences humaines. Non pas qu'ils aient à essayer de rivaliser avec le médecin, le psychiatre, le psychanalyste, n'est-ce pas? Mais ils ont quand même à pouvoir se rendre compte que tel ou tel de leurs fidèles qui vient les voir, il faut l'aiguiller vers le psychanalyste, n'est-ce pas? Et ça suppose une certaine connaissance. La tâche d'une faculté de théologie, ce n'est pas d'enseigner les sciences humaines, c'est d'enseigner essentiellement les sciences bibliques, n'est-ce pas? Et puis tout ce que les sciences bibliques supposent comme moyen d'accès, aussi bien l'histoire, la philosophie, l'archéologie et tout ce que vous voudrez. Mais aussi, me semble-t-il, de donner au moins une certaine notion des différentes sciences humaines aux pasteurs qui en ont besoin pour exercer leur ministère.
Mais j'aimerais vous demander, n'est-ce pas, comment monnayer cette annonce de la parole? Enfin, vous nous dites, n'est-ce pas, le rôle du pasteur, c'est d'annoncer la parole. Mais il me semble que ça peut justement se faire le dimanche, n'est-ce pas? Comment cela peut-il occuper une semaine? Comment cela se monnaie-t-il dans le quotidien de la vie?
Et oui, et c'est un problème sérieux que vous posez là. Seulement, annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas l'annoncer d'une façon générale à une foule réunie dans une église. C'est toujours la personnaliser, n'est-ce pas? C'est l'annoncer à tel homme, dans telle situation où il se trouve. Et c'est pour ça que le pasteur est un accompagnateur. C'est pour ça qu'un pasteur doit suivre les hommes dans leurs difficultés, être à leur côté pour pouvoir, en chaque circonstance, leur dire que la parole de Dieu a un sens particulier pour eux dans cette circonstance, ou plutôt à chercher, pour chercher avec chacun d'entre eux ce sens que la parole de Dieu a pour lui dans cet instant.
Mais, monsieur le pasteur, je sais bien qu'il est dit dans l'évangile qu'il faut annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, mais dans une société comme la nôtre, comment exercer cette fonction avec quand même le minimum de discrétion requise?
Eh bien, voyez-vous, tout ceci suppose, bien entendu, que le pasteur soit accepté par sa communauté. Et pour qu'il soit accepté, il faut qu'elle le connaisse. Et pour qu'elle le connaisse, eh bien, il faut qu'il y consacre beaucoup de temps. Et je crois que beaucoup de jeunes pasteurs n'y consacrent pas assez de temps. Ils considèrent ça un peu comme du temps perdu. Beaucoup de jeunes pasteurs vous disent « Moi, j'ai totalement renoncé à faire des visites. Ça ne sert à rien. » Et moi, je leur dis « Si, ça sert à quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien. Mais on vous connaît. Vous connaissez les autres, des relations purement humaines, n'est-ce pas? Ce nous entre les gens, et à un certain moment, peut-être, qu'il vous sera donné d'annoncer à ces gens que vous avez rencontré la parole de Dieu. Peut-être, ça vous sera donné. Il faut avoir beaucoup d'esprit de gratuité, si vous voulez, pour être pasteur à l'heure actuelle. Il faut s'engager dans des relations humaines aussi variées et diverses que possible. Et naturellement, ça comporte toutes sortes d'activités, comme on en voit dans toutes les paroisses. Ça comporte des réunions diverses, des carrefours, des tribunes, des fêtes, etc., etc. Toutes sortes de choses, à côté, naturellement, des tâches régulières, comme le sont l'enseignement catéchétique, la prédication, l'administration des sacrements, etc. Mais je crois que le pasteur est un être de relation. Et c'est dans la mesure où il est vraiment un être de relation qu'il lui sera donné, quand le moment opportun se présentera, d'annoncer véritablement la parole de Dieu de façon concrète. J'ai écrit quelque part que bien des pasteurs étaient s'ennuyaient à leur propre prédication. C'est pourquoi? C'est que cette prédication est une prédication abstraite. Il m'arrive encore assez souvent de prêcher le dimanche, et je le fais avec joie. Mais je le fais aussi avec difficulté. Pourquoi? Parce que très souvent, il s'agit de paroisses que je ne connais pas. Quand j'étais pasteur de paroisse, je n'avais pas d'hésitation le vendredi ou le samedi pour trouver le texte de ma prédication. À partir des rencontres que j'avais faites au cours de la semaine, je savais c'est ça qu'il faut maintenant annoncer, n'est-ce pas? Et il se trouve que j'étais pasteur dans le midi de la France au moment de la libération en 1944. Eh bien, ça n'a pas été très beau, la libération, n'est-ce pas? Il y a eu toutes sortes de règlements de compte. Eh bien, vous savez, à ce moment-là, prêcher le pardon, ça avait un sens, et un sens concret. Et c'était difficile.
Monsieur le pasteur Roger Mel, je vous remercie.